BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Maurice.
Bonjour Stéphane Carcio.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes économiste spécialiste de l'emploi à l'OCDE. Alors le Premier ministre Jean Castex doit dévoiler dans une allocution à midi et demi son plan sur l'emploi, pour l'emploi des jeunes. L'objectif du gouvernement, priorité bien sûr, c'est d'éviter que les entrants sur le marché du travail à la rentrée soient une génération de sacrifiés. Il faut dire que la situation est assez stressante. Le chômage des jeunes actifs avant la crise du Covid-19, elle s'élevait déjà à 23%. Et là, donc, ce sont 700 000 nouveaux jeunes qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi à la rentrée.
Oui, c'est un chiffre, bah, comme d'habitude, quoi, parce qu'une génération, c'est 700, 750 000 jeunes chaque année, donc il faut les absorber, et le marché du travail, normalement, est très dynamique, et donc arrive à effectivement accueillir tous ces jeunes. Donc on a un problème, c'est qu'il y a pas mal d'activités, notamment dans les services, qui sont des très gros pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes, qui ont une activité, comme on le sait, restreinte, et pour certaines même quasiment impossible, dans un nombre d'activités de loisirs, dans les festivals, etc. Donc il y a effectivement un enjeu important. Alors la subvention à l'emploi, ça va plutôt effectivement dans le bon sens. On sait que ces subventions, elles aident les employeurs à prendre la décision d'embauche lorsqu'ils font face à une incertitude dans les mois qui suivent. C'est plutôt bien, et pour que ça marche, il faut que ce soit ciblé. De manière assez précise en termes de salaire. Et de ce point de vue, l'aide est plutôt bienvenue, mais elle reste quand même très très large. Parce qu'on va jusqu'à 2 SMIC, et donc par rapport à ce qu'on a fait dans le passé, on avait plutôt tendance à cibler jusqu'à 1,6 SMIC, parce qu'on va être au-delà de ce seuil. 1,6 SMIC, c'est pratiquement 1800 euros déjà. En fait, on a peu d'effet sur l'emploi. Et beaucoup plus d'effets sur les salaires. Alors c'est bien d'avoir des effets sur les salaires, mais on n'a pas envie de les financer avec du déficit public. Voilà.
Ouais, parce qu'avec 1,6 SMIC, on va plutôt toucher les professions les moins qualifiées, alors qu'avec 2 SMIC, on va assez rapidement toucher les plus qualifiés.
D'autant qu'en plus, que l'aide, en fait, est forfaitaire, de ce que je comprends. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle soit dégressive. Donc ça veut dire qu'on va toucher 2 SMIC, c'est énorme pour un jeune.
C'est une demande du patronat.
Oui, mais je pense que ça fait quasiment 90% des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Il faut savoir que le salaire moyen d'un jeune de moins de 25 ans, c'est 1500 euros. Donc c'est 2 SMIC, ça fait 2400 euros. Donc on va couvrir quasiment tous les jeunes. Donc de ce point de vue, l'aide est vraiment extrêmement étendue. Elle pourrait être plus efficace de ce point, avec un meilleur ciblage, à mon avis.
On connaît justement une grande partie du contenu de ce plan, ce qui se profile, et avec les annonces qui sont en train de tomber, on va y revenir tout de suite. Donc 4000 euros par an pour toute embauche d'un jeune de 25 ans, CDI ou CDD d'au moins 3 mois, ça c'était ce qui avait été évoqué, par tranche de 1000 euros par trimestre et jusqu'à 2 SMIC, ce qui avait été demandé par le patronat, on vient de le dire. On apprend donc 60 000 contrats aidés dans le secteur marchand, le gouvernement vient de l'annoncer, 450 000 embauches espérées avec ce plan, et ce qui représente une enveloppe globale de 6,5 milliards d'euros sur 2020-2021. Voilà pour les derniers chiffres. L'objectif, c'est que ce plan soit opérationnel dès la rentrée. Est-ce que ça sera suffisant, là, avec les éléments qu'on a, Stéphane Carcio?
Bah, en fait, la mesure risque quand même aussi d'exclure pas mal de gens qui vont quand même avoir besoin d'une aide. Si on cible par exemple les CDD de plus de 3 mois, comme c'est actuellement dans les tuyaux, on va exclure énormément d'embauches de jeunes, il faut quand même le savoir. 70% des embauches de CDD sont des CDD de moins d'un mois.
Eh oui.
Donc à plus de 3 mois, on va exclure énormément d'embauches du dispositif. Deuxième limite, on cible les jeunes. Bon, c'est bien, ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce, il faut vraiment les aider, mais un jeune de 26 ou 27 ans va aussi avoir beaucoup de difficultés. Et en ciblant les moins de 25 ans, en fait, on risque d'avoir un effet négatif sur l'embauche du jeune de 26 ou 27 ans. Les moins qualifiés, ceux qui ont des rémunérations moyennes ou basses, sont ceux qui souffrent le plus de la crise et dont les perspectives d'embauche sont les plus dégradées. Qu'ils aient 22 ans, 25 ans ou 30 ans. Et de ce point de vue, un ciblage uniquement sur les jeunes de moins de 25 ans, à mon avis, va limiter l'effet macroéconomique de la mesure.
Si je vous comprends bien, ça ne va pas assez loin.
Bah, en fait, ça va à la fois trop loin en termes de rémunération, parce qu'on cible des salaires pour lesquels il y a moins de problèmes de chômage, et notamment chez les jeunes, et ça va pas assez loin parce que ça cible sur une population trop réduite. Donc pour avoir un effet macroéconomique sur l'emploi plus important, il faudrait resserrer sur les bas salaires et élargir les tranches d'âge.
Il y a eu un précédent, Stéphane Carcillo, évidemment, on se souvient tous de la crise de la fin des années 2000. Est-ce que le gouvernement s'inspire de ces choix qui avaient été faits à l'époque ?
Probablement sur le principe d'une aide à l'embauche, parce que cette aide de 2009-2010, elle s'est avérée effectivement assez efficace. On l'a évaluée scientifiquement. Elle a créé des emplois en net. Ces emplois ont duré dans le temps. Le coût par emploi créé a été relativement faible parce qu'on a économisé des prestations sociales en mettant les gens en emploi. Donc de ce point de vue, c'était un dispositif assez efficace. En revanche, ce dispositif de 2009-2010, il était ciblé sur les TPE-PME qui avaient des grosses difficultés, mais il n'y avait pas de limite d'âge. Donc de ce point de vue, le gouvernement a voulu cibler sur les jeunes, mais en oubliant tous les moins qualifiés, les moins jeunes, qui eux aussi vont avoir des difficultés.
Bon, pour que tout ça fonctionne malgré tout, Stéphane Carcillo, il va falloir des embauches.
Il va falloir des embauches,
mais... C'est bien beau un plan. Derrière, il faut que les entreprises aient besoin de recruter.
Alors, tout à fait. Alors en fait, il se trouve que, contrairement à ce qu'on pense... Même dans les périodes de forte incertitude et de récession économique, les entreprises continuent à recruter. Elles ont des besoins permanents.
Pourquoi si la consommation ne repart pas ?
Elles ont des besoins permanents. Le marché du travail, c'est une machine en perpétuel mouvement. C'est pas une machine qui se gèle parce que l'économie va mal. Il y a des départs à la retraite. Il y a des fins de contrat de CDD qu'on peut pas renouveler parce qu'on a dépassé les limites. Il y a des démissions. Et donc, pour continuer à produire, il faut de toute façon avoir ce volant de recrutement. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que les entreprises peuvent se saisir de cette aide et recruter un peu plus qu'elles ne l'auraient fait sans aide. C'est ce qui s'est passé en 2009-2010. C'était une période assez grave aussi, moins grave qu'actuellement, et c'est probablement ce qui va se passer à la rentrée.
Ce plan est malgré tout, pour l'instant en tout cas, limité dans le temps. C'est un dispositif qui devrait durer un an. Est-ce que ce n'est pas simplement repousser le problème à l'année prochaine ?
Alors c'est bien que ce soit limité dans le temps. Pour le coup, c'est quelque chose de vraiment efficace parce que ça permet aux entreprises de se saisir tout de suite de ce dispositif et d'embaucher tout de suite plutôt que d'attendre. Si on fait un dispositif pérenne, du coup, les effets vont être très très dilués. L'expérience de 2009-2010, c'est qu'en fait, les emplois qui ont été créés sont restés pour un grand nombre à la fin de l'aide.
Mais avec le chômage partiel, Stéphane Carcillo, certains économistes ont dit qu'on avait mis l'économie sous cloche et que finalement, une fois que ces aides de l'État vont s'arrêter, et ben finalement, les entreprises vont peut-être se mettre à licencier. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un scénario similaire avec l'emploi des jeunes ?
Non, ces aides, en fait, elles ont des effets pérennes. Pour partie. Les aides à l'embauche permettent de générer des embauches qui peuvent survivre quand l'aide s'arrête et que l'économie va bien. Le chômage partiel permet à des entreprises viables de survivre le temps des mesures sanitaires et de la crise et ensuite de repartir derrière. Évidemment, il y a toujours un volant d'embauche ou d'emploi qui vont s'arrêter une fois l'aide terminée. Mais ce volant, c'est pas la majorité. Donc ces dispositifs, s'ils sont bien ciblés, c'est ça qui est très important, s'ils sont bien ciblés, que ce soit l'aide à l'embauche ou le chômage partiel, l'aide à l'embauche, c'est pour booster les embauches, le chômage partiel, c'est pour limiter les licenciements. Les deux doivent être ciblés sur les entreprises qui en ont besoin vraiment et qui sont viables. C'est pour ça qu'il faut cibler à la fois les aides à l'embauche sur les bas salaires et le chômage partiel en demandant aux entreprises un reste à charge, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne celles qui sont capables d'avoir un horizon positif.
D'un mot, est-ce que ça va pénaliser l'emploi des seniors ?
Alors ça, c'est une bonne question. L'emploi des seniors, je pense, est effectivement particulièrement sensible à la crise, notamment via les licenciements. Donc l'outil principal, je pense, c'est surtout le chômage partiel qui doit essayer de les aider et les dispositifs. Et puis surtout, essayer d'aider les seniors qui se retrouvent au chômage à retrouver un emploi, parce que le principal risque pour les chômeurs, c'est de tomber effectivement dans un chômage de longue durée.
Est-ce que le gouvernement, au-delà de ce plan-là qui va être mis en place pour la rentrée, dès cette rentrée, dès le mois de septembre, est-ce qu'il dispose aussi d'autres leviers pour limiter la casse, la formation, les compétences ? Certains réclament d'ailleurs, intéressant, enfin vous allez me dire, un numerus clausus dans les universités, par filière, selon les perspectives d'embauche. Est-ce que le problème ne vient pas aussi de là ? Il faut aller voir en amont comment régler toutes ces questions.
Alors, il y a des problèmes structurels en France, notamment d'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises qu'il faut effectivement renforcer. Il faut renforcer l'apprentissage. Je pense qu'à tous les niveaux, c'est bénéfique à l'insertion des jeunes, l'expérience dans l'entreprise en alternance avec la formation. Et d'une manière générale, je pense que pendant cette période où il va y avoir un chômage qui risque malheureusement de fortement monter d'ici la fin de l'année, booster la formation des demandeurs d'emploi, c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que quand il y a moins de perspectives d'emploi, c'est le moment de former notamment les jeunes qui se retrouveraient sans perspective parce qu'ils n'ont pas terminé leur cursus ou parce que ils trouvent pas d'emploi à la fin de leur cursus. Une formation complémentaire, c'est vraiment le moment de la faire. Donc booster la formation, c'est vraiment une bonne stratégie et c'est vraiment nécessaire pour accompagner les jeunes et les moins jeunes, notamment vers les filières qui vont recruter, parce que crise, comme toutes les crises, elle fait des grosses restructurations. Il y a des entreprises qui vont aller mal, des secteurs qui vont aller mal, mais des secteurs qui vont continuer à recruter.
Comme toujours.
Et en fait, c'est le rôle du service public de l'emploi, avec l'aide de la formation, de réorienter les gens vers les secteurs et les entreprises qui recrutent.
Les gagnants aussi, je mets des guillemets bien sûr à gagnants de cette crise, ce sont les retraités qui voient leur niveau de vie augmenter par rapport au reste de la population, par rapport aux actifs. Le fossé continue de se creuser entre les générations.
Alors, c'est un des risques. On sait notamment que les jeunes, notamment les jeunes peu ou pas du tout qualifiés, eux, risquent d'avoir des effets de cicatrices, comme on les appelle, des marques sur leur carrière pendant de longues années, jusqu'à 10 ans. On voit les effets d'une crise profonde si on ne les aide pas à obtenir un emploi. Parce que quand ils ratent la marge de l'entrée sur le marché du travail, ensuite, ils ont des contrats qui sont de plus courte durée, ils ont du mal à accéder au CDI, ils ont un salaire d'entrée plus faible et ils le gardent plus faible pendant plusieurs années. Donc, effectivement, il peut y avoir une marge sur cette génération si on ne prend pas de mesures.
Est-ce que la France, est-ce qu'Emmanuel Macron va inspirer le reste des pays européens, le reste des pays de l'OCDE là, avec ce plan?
Peut-être, je pense que beaucoup de pays ont en tête d'aider les jeunes de manière assez différente. Dans les pays dans lesquels l'apprentissage est très important, on va mettre le paquet sur l'apprentissage, l'Allemagne, la Suisse. Dans les pays dans lesquels l'éducation est très importante aussi, les pays du nord de l'Europe, je pense qu'on met beaucoup l'accent sur le fait de pouvoir continuer une année d'études supplémentaires et de poursuivre sa trajectoire éducative. Je pense que tout le monde a l'idée qu'effectivement il va falloir aider les jeunes à la rentrée. Les plans des différents pays aujourd'hui sont vraiment en train d'être conçu, donc on ne sait pas trop encore exactement quels sont les dispositifs. La France est un des premiers pays à présenter dans le détail son plan, donc on va voir, il faut suivre ça dans les mois qui viennent.
Absolument. Merci beaucoup Stéphane Tercio d'être venu discuter et analyser toutes ces annonces. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste de l'emploi à l'OCDE. Restez avec nous. Dans un instant, nous retrouvons Bertrand Biard, le président de l'association L'Événement, qui représente 335 000 emplois en France dans l'événementiel, un secteur qui a du mal à se remettre de la crise. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
L'événementiel, un des secteurs qui a été les plus exposés pendant la crise du coronavirus, très difficile de repartir, sans compter qu'à cette heure, personne n'a encore la garantie que nous serons totalement à l'abri d'une seconde vague à la rentrée, septembre, novembre prochain. En attendant, comment se porte le secteur événementiel en cette période estivale, qui est d'ordinaire une période bien chargée? Et puis, qu'en est-il de la rentrée? On parle de tout ça avec notre invité. Bonjour Bertrand Biard.
Bonjour Erwan.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association L'Événement, qui représente 335 000 emplois donc dans l'événementiel, les agences, les prestataires, les traiteurs, les propriétaires de lieux, au total des événements qui génèrent d'ordinaire, hein, ça ne sera pas le cas cette année, mais 32 milliards d'euros en France par an, de retombées sur l'ensemble du territoire, hein, selon les chiffres du cabinet EY. Bertrand Biard, est-ce qu'en ce mois de juillet, l'événementiel commence à sortir la tête de l'eau?
Alors, l'événementiel, c'est un vaste périmètre, hein, on l'a vu ces derniers mois, avec la montée au créneau de pas mal d'associations professionnelles. On n'en est qu'une partie. L'événement représente effectivement les événements corporate, mais vous avez aussi les foires, les salons, vous avez les fabricants de stands, vous avez d'autres métiers qui sont dans le domaine du sport ou de la culture. Tout ça, ça crée une énorme famille événementielle. C'est gigantesque. Et là, les chiffres que vous avez évoqués sont juste sur la partie événement d'entreprise que je représente. Donc, on parle de plusieurs dizaines de milliards, effectivement, de chiffre d'affaires qui n'existent plus. Depuis le mois de mars, ce chiffre d'affaires a disparu. Dans la partie événementielle corporate, donc les événements d'entreprise, effectivement, effectivement, notamment nos agences, ont réussi à twister un peu de leurs activités avec cette fameuse approche distancielle ou distanciée des événements. Donc les gens commencent
le numérique, le live streaming, ce genre de choses.
Mais ça, on peut en parler de deux minutes. Mais oui. ce qui est important, c'est de dire que globalement, ce secteur-là, ne s'est pas relancé, avec notamment un constat, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible pour une entreprise du secteur de reprogrammer son activité, compte tenu du fait que des décrets arrivent les uns après les autres et décalent les dates.
C'est totalement flou, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a le marathon de Paris qui a été reporté une première fois. Vous ne vous en occupez pas, le marathon de Paris.
Non, je ne le cours pas non plus.
Vous ne le courez pas non plus. Il est reporté une seconde fois, fin d'année, probablement que ça sera reporté encore une fois. En tout cas, on ne sait pas.
On ne peut pas savoir. Alors, on reconnaît que ne pas savoir, c'est naturel, hein. On est bien conscient, et depuis le départ, on a reconnu que l'État nous aidait économiquement et qu'on comprenait parfaitement ces problématiques sanitaires. Néanmoins, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui tous les jours que des rassemblements, ce mot souvent dans la bouche du président de la République, s'organisent sans professionnels et donc avec des respects sanitaires qui peuvent être quelquefois un peu décriés. Nous, notre discours est de dire que sur ce plan de la relance d'activité, on a mis en place un protocole qui a été validé par les pouvoirs publics, on a mis en place un certain nombre de process, donc on est capable et prêt de pouvoir relancer des événements dans lesquels, je le rappelle quand même, un événement corporate, on connaît les publics, on leur parle avant l'événement, on trace leur chemin jusqu'à l'événement, on sait quel parcours ils font à l'intérieur, on sait mettre en place des organisations et des procédures, donc c'est pas tout à fait la même chose que le grand public qui sera venu spontanément.
Sur les 335 000 emplois que vous représentez, Bertrand Biard, avec votre association L'Événement, combien sont aujourd'hui dangereusement menacé,
c'est difficile, parce que 335 000 emplois, c'est direct et indirect, donc il y a aussi plein de métiers dans les territoires qui sont des métiers liés au tourisme de manière générale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes chaînes hôtelières vivent en grande partie, 45 à 50% du tourisme d'affaires.
Mais il y a quand même aussi, dans votre secteur, beaucoup d'intermittents, beaucoup de contrats précaires.
Absolument.
Ce sont eux qui sont en première ligne.
Alors la première ligne, elle est à plusieurs niveaux. Elle est d'abord tous ceux qui sont indépendants, qui ont des aides qui sont très ponctuelles et très insuffisantes par rapport à ce qu'ils doivent générer comme activité pour pouvoir vivre, juste vivre. Donc ça, ces indépendants-là sont très en danger. Certaines typologies de métiers, bien évidemment, plus exposées que d'autres. Ceux qui louent des salles, qui peuvent pas les louer. Ceux qui organisent de la restauration et qui nourrissent personne en ce moment puisqu'il n'y a pas d'événement. Et donc en cascade comme ça, il y a plein de chaînes de prestataires qui sont plus ou moins impactées. Et jusqu'à nos agences ou les organisateurs de grandes foires et salons qui voient leurs événements reprogrammés ou annulés.
Est-ce que les aides de l'État, qui a pourtant été, enfin la France, un des États les plus généreux au monde pendant cette crise, et puis très rapidement, hein, dès que l'épidémie a commencé, malgré tout, vous nous diriez que ça n'a pas été suffisant ?
Alors suffisant, c'est toujours pareil, on parle avec des photographies instantanées, et cet instantané, il change à chaque minute. Quand vous avez la perspective de redémarrer le quatrième trimestre qu'on avait imaginé sanitairement, avec les protocoles et tout ce dont je viens de vous parler, globalement, les aides nous permettent de passer ce cap-là, d'avoir une partie de nos collaborateurs qu'on conservait parce que le chômage partiel était fondamental pour nous et nous a bien aidés, que les PGE nous permettaient de pouvoir gérer les avances de trésorerie et que tout ça reprenait un cycle normal progressivement entre le dernier trimestre et le premier trimestre de l'année prochaine.
Mais quand tout ça va s'arrêter,
quand tout ça glisse en permanence et que vous ne pouvez pas, enfin moi je suis aussi chef d'entreprise, je suis pas que patron d'association, à aujourd'hui faire un business plan c'est compliqué parce que vous programmez du chiffre d'affaires qui peut glisser, vous programmez des frais généraux que vous devez maîtriser, le chômage partiel dans les conditions actuelles devrait s'arrêter fin septembre, j'espère que l'État nous entendra et nous permettra de le garder. Mais pourquoi ? C'est important qu'on se pose la question du pourquoi, parce que assez souvent, j'entends les gens dire « votre secteur est sinistré, les pauvres ». Mais c'est pas que les pauvres, c'est-à-dire que nos entreprises disparaissent en tout ou partie, c'est dommage, mais tout le monde peut s'en foutre. Et on aurait tort, parce qu'en fait, nos métiers sont pas juste des PME qui vivent et qui se développent, ce sont des entreprises qui sont au service de la relance économique demain et de la vie des entreprises et des institutions en général. C'est qu'il n'y a pas de capacité à pouvoir avoir du lien social sans une capacité à créer l'événement, que ce soit pour le sens, et toutes entreprises recherchent du sens, on en parle beaucoup, que ce soit pour le business, parce que développer du business, ça a besoin de salons, de congrès, un certain nombre d'événements, pour créer de l'engagement, parce que vous parlez pas à vos publics ou à vos clients ou aux salariés si vous les réunissez pas, et on verra qu'il y a un certain nombre de problèmes sociaux qui se posent d'ores et déjà dans l'entreprise avec le télétravail et le distanciel. Et puis, bien évidemment, parce que l'innovation, elle ne se porte que quand on se rassemble. Il y a une étude que j'avais vue il y a quelques jours qui dit que les grandes entreprises créatives, et je pense notamment à Apple, constatent qu'aujourd'hui l'innovation est appauvrie parce que les gens ne peuvent pas créer ensemble et qu'on crée pas seul.
Vous demandez quelle reprise pour quel type d'événement là, s'il y a encore des choses qui sont un petit peu bloquées.
Alors aujourd'hui le calendrier nous permet d'organiser à peu près n'importe quelle typologie d'événements jusqu'à une jauge de 5000 personnes qui devrait être levée pour l'instant au 1er septembre. Et avec une nouveauté qui date de la semaine dernière, qu'on a vu apparaître un petit peu comme ça rapidement, qui dirait que les salons, l'activité salon, donc les établissements classés T, n'auraient pas le droit de reprendre avant le 31 octobre. Là, on a besoin de clarifier ça, qu'on entende le fait que nos protocoles sanitaires sont capables de pouvoir, encore une fois, mettre en place des mesures barrières efficaces, que les événements d'entreprise, corporate, professionnelle, ne doivent pas être traités exactement de la même manière que des rassemblements grand public. Mmh. Donc on a besoin d'entendre ça pour reprogrammer des choses. Donc des aides, oui, pour tenir jusqu'au moment où ça repart.
Et vous pouvez discuter là avec Bercy sur ces sujets-là, il vous écoute ?
Alors Bercy nous écoute depuis toujours. Maintenant, Bercy n'a pas un portefeuille extensible, même si Bruno Le Maire a repris un portefeuille plus large. Il faut qu'on reprenne des discussions. Et encore une fois, notre secteur n'a jamais été un secteur qui attendait la perfusion. Notre but, c'est de rebosser. On est prêts. Nos entreprises sont encore vivantes, encore. Il y aura sans doute des mouvements obligatoires de fusion, de rassemblement. Mais on est encore vivants et on veut bosser. Et les entreprises ont besoin de nous.
On entend beaucoup, malgré tout, hein, j'en suis désolé, mais que le pire reste à venir. Une étude de l'Heure Hermès pour BFM Business nous apprenait en début de semaine que les faillites d'entreprises allaient exploser dans les prochains mois. Est-ce que vous vous sentez concerné ? Est-ce que vous êtes préparé à ça ?
Alors, est-ce que vous demandez à quelqu'un s'il est préparé à une faillite ? Forcément non. Quand il croit à son métier et qu'il croit à son importance pour la société et l'économie, il essaye d'abord de faire durer son entreprise. Donc aujourd'hui, on a tous essayé de garder nos collaborateurs avec des responsabilités de patron.
Est-ce que vous vous dites aussi que le pire est peut-être à venir ?
Le pire pourra toujours venir. Il y aura toujours quelque chose. Mais on a surmonté des crises sécuritaires assez dramatiques. On a été confronté de nombreuses années à des phénomènes sociaux, à des mouvements sociaux qui ont toujours impacté nos métiers. Mais on est agile. Donc là, on est agile, mais encore une fois, l'agilité, elle est capable de pouvoir durer tant qu'on sait qu'on a une opportunité de reprise. Donc on a besoin aujourd'hui, certes, de prolonger, de discuter quelques aides, mais surtout, on a besoin de remettre en marche ce pays, globalement, collégialement, et nous, on est là pour accompagner ça. Donc il faut que tout le monde ait conscience, et nos clients le disent. Nos clients veulent relancer des événements, avec bien sûr des mesures, avec bien sûr aussi du digital, tout ça, c'est pas un sujet, mais il faut qu'on puisse commencer à programmer, que les gens puissent commencer à avoir des bons de commandes, et pour ça, il faut arrêter juste de parler de terreur des rassemblements.
Dans les chiffres que vous nous communiquez, vous craignez un risque d'une baisse de 14% de l'emploi, ça serait dans le meilleur des cas ?
Dans les emplois directs, à aujourd'hui, en travaillant dans des scénarios où le chiffre d'affaires disparaîtrait jusqu'en fin d'année, ce qui commence à pouvoir se laisser sentir, on est à moins 50% d'activité dernier trimestre. Si c'était le cas, oui, forcément, on commencera à envisager les premiers départs volontaires ou organiser de salariés dans l'entreprise. Oui.
La seconde vague dont on continue de parler, on ne sait pas bien si elle va déferler ou pas encore. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que il n'y aura probablement pas de reconfinement total comme on a connu ça ? A priori, c'est acté. En revanche, il n'est pas impossible que certains événements soient à nouveau annulés ou reportés. Là aussi, il faudra être capable d'encaisser.
On pourra tout encaisser dès lors qu'on est capable de pouvoir dire, et ça, c'est ça que j'appelle de mes voeux aujourd'hui, c'est qu'officiellement, il soit dit par les entreprises qui nous le disent à nous, par les pouvoirs publics, qu'il faut être capable de remettre les gens au travail ensemble et donc d'utiliser nos outils. Après, on mettra en place toutes les mesures qu'il faut pour protéger. Je crois ne pas me tromper en disant qu'aucun événement corporate d'entreprise n'a été l'occasion d'un cluster, et ce, y compris en fin d'année dernière ou en début d'année 2020. Donc c'est pas chez nous, en fait. Encore une fois, parce qu'on sait identifier, tracer, mettre en place des process, on est d'une organisation professionnelle. Donc, on sait pouvoir limiter ou gérer ces risques-là. Il faut juste qu'on puisse retravailler pour pouvoir faire évoluer les process au fur et à mesure du besoin.
Merci Bertrand Biard.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous, président de l'association L'Événement, le secteur événementiel, touché bien sûr en priorité par le coronavirus. Difficile période estivale. On continuera de suivre ce dossier bien sûr sur BFM Business à la rentrée. Je rappelle que vous êtes le président de l'association L'Événement. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'actualité économique. A tout de suite.